Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous terminons notre très importante série concernant « Tu n'as qu'une seule vie ». Mais elle est bientôt passée. Tu n'as qu'un aller simple dans ta vie. C'est donc l'étude numéro 10 et c'est une prière finale de l'ensemble de toute cette série. Tout d'abord, je dois dire quelque chose de très important pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Le Seigneur, il n'aime pas que nous fassions de trop longues prières, des palabres à l'infini. Il aime que nous puissions faire de courtes prières, mais qui viennent du plus profond de notre cœur, de notre âme et de notre esprit. Donc, cette prière aujourd'hui est exceptionnelle et cela n'a rien à faire avec une prière que nous faisons d'habitude. Du reste, à la fin de l'étude, nous prierons ensemble, mais donc, vous l'avez compris, il s'agit de quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui va englober toute la série de nos études dans cette série-là. Donc, je commence. Ta bonté, Seigneur, elle vaut mieux que la vie. Cette vérité, tu l'as affirmée de plusieurs façons. Par la bouche de ton serviteur David, tu l'as exprimé en ces termes mêmes. Ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Ensuite, tu l'as formulé au travers des paroles de ton apôtre Paul, lorsqu'il confiait en prison. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Oui, Seigneur, tu es tellement plus précieux que la vie. D'ailleurs, l'expression utilisée par l'apôtre Paul n'est-elle pas révélatrice? Il ne se contente pas d'employer le terme « meilleur », mais il renchérit en disant « de beaucoup le meilleur ». Tu es tellement plus précieux que la vie, que ton apôtre évoque la mort en termes de profit. Il dit « pour moi, vivre, c'est Christ ». Et mourir m'est un gain. Oui, être dépossédé de tout ce que peut offrir ce monde pour être réduit à toi seul, c'est vraiment un gain. Pourquoi ton amour au Seigneur est-il plus précieux que la vie? Assurément, une réponse nous est livrée dans les termes employés par David. Il ne dit pas « car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent ta bonté », mais il dit qu'il veut te louer seulement toi et non pas seulement ta bonté. Parce que ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbre tes louanges. S'il a choisi de s'exprimer ainsi, n'est-ce pas parce que la plus belle chose que fasse ta bonté, c'est de nous ramener auprès de toi en nous donnant des yeux, un cœur et un esprit apte à voir les richesses de ta gloire. Plus rien, non plus rien, ne nous empêche de jouir de ta présence maintenant, maintenant que ta colère a été écartée et nos péchés ont été pardonnés. N'est-ce pas ce qui définit ta bonté, ta volonté de nous accorder à nous, pécheurs sans mérite, tels que moi, une joie éternelle en toi et ton action pour réaliser cette volonté? L'amour pourrait-il être autre chose s'il doit être infini? N'es-tu pas la meilleure récompense qui puisse nous être accordée si nous sommes aimés? Ô Seigneur, tu sais combien je crains à présent de voir beaucoup de ceux qui t'appellent Seigneur faire d'eux-mêmes la récompense et la gloire de ta grâce. Combien ont fait de toi, Seigneur, le témoignage de la grandeur de leur propre valeur? Leur joie provient-elle alors de ta valeur ou de la leur? Durant les nombreuses décennies passées, la voix du monde qui a même trouvé écho chez, hélas, chez certains pasteurs, il faut bien le dire, n'a cessé d'affirmer que l'amour consistait à mettre l'homme, oui, l'homme, en valeur. Aussi, quand les hommes se nourrissent de cette assurance, cherchent à méditer sur ce que ton amour peut bien vouloir dire, ils se mettent à déclarer la même chose, à affirmer que l'amour de Dieu consiste à souligner la valeur de l'homme. En guise d'argument, ils demandent « Ne vous sentez-vous pas aimé lorsque votre valeur est mise en évidence par autrui ?» Cela m'est arrivé une fois, quand la vie comptait plus pour moi que le Seigneur, et non le contraire. Il y a là eu un temps où l'amour semblait se résumer à cela. Oui, j'ai bien connu le désir à considérer les louanges des hommes comme étant des actes d'amour et à justifier le désir d'en recevoir par l'empressement à faire de même. Il est tellement gratifiant, en apparence, d'échanger entre nous un amour qui est fait d'admiration réciproque. Mais je vois à présent, grâce à ta puissante grâce, qu'il ne s'agit que d'une pâle imitation. Oui, cette imitation, elle remonte, il faut bien le dire, très loin, au lointain épisode du jardin d'Éden. Le grand destructeur de notre amour et de notre joie, il s'est adressé à Ève, notre mère, en prétendant « Dieu sait que si vous mangez de ce fruit-là, eh bien vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Oui, comme Dieu. Mais Ève, elle aurait dû répondre, « Je suis déjà comme Dieu. » Elle aurait dû voir le piège, mais elle ne l'a pas discerné, et combien ne le discernent pas aujourd'hui non plus. En vérité, Ève était comme toi. Oui, car tu l'avais ainsi créé à ton image. Son appel et son dessein, particulièrement noble, consistait à refléter la majesté de son Créateur, toi, Dieu, et à révéler ta valeur au travers de sa joie et de sa confiance en toi. Mais la pensée suggestive et suggérée par le malin a hélas germé. Je pourrais donc être comme lui d'une autre manière. Je pourrais être celle dont la majesté serait visible et dont l'amour trouverait sa définition dans la révélation de sa propre valeur. C'est ainsi qu'est survenu dans le monde ce grand bouleversement appelé péché, et la notion d'amour a été ainsi renversée. Il m'est douloureux d'en parler ainsi au Seigneur, mais telle est la situation, et c'est à notre plus grande honte, ton amour ne signifie plus que tu fais le nécessaire pour devenir notre joie, mais pour nous permettre de nous sentir valorisés. C'est un triste renversement, et à double titre, car non seulement il a privé notre âme de la joie que tu avais prévue pour nous satisfaire éternellement, mais pire encore, oui, il t'a ravi la place d'honneur, cette place d'honneur que tu dois occuper en tant que trésor de notre vie. Tout ce que tu t'es employé à faire depuis ce sombre jour en Éden vise à redresser la situation. Quelle suite d'actes et de révélations tu as mis en œuvre pour redevenir le centre de notre joie et reconquérir ta place d'honneur dans le monde, pour être celui, oui celui, que ton peuple estime plus que la vie. De combien de manières tu nous as déclaré et montré que tu nous avais créés pour ta gloire, pour ta louange, pour ton honneur et pour ton saint nom. De peur que nous ne comprenions pas, tu as même ajouté « Il y a d'abondantes joies devant ma face, des délices éternels à ma droite. Faites donc de moi vos délices. » Soyez dans l'allégresse et bondissez de joie, car je suis vraiment votre récompense certaine et admirable. Venez et goûtez et réjouissez-vous d'une joie ineffable et glorieuse. Quel noble dessein ! Faire de notre joie l'écho de ton excellence, faire de nos délices la preuve de ta suprématie dans notre vie, faire de la réjouissance de notre âme l'essence de notre louange et le reflet de ta valeur. Faire en sorte, ô Dieu, que notre satisfaction en toi te confère plus de gloire. Comment, oui, comment ai-je pu, Seigneur, être aveugle au point d'imaginer que être aimé de toi signifiait exalter ma grandeur et non pas la tienne? Comment pourrais-je avoir l'audace d'approcher mon œil d'un télescope destiné à parcourir et à faire ma joie à la vue de toutes les galaxies et notant sur la lentille simplement un pâle reflet de ma face et de dire oui à présent je suis satisfait, je me sens vraiment aimé. Comment pourrais-je me tenir face à un coucher de soleil, entre les sommets des montagnes ou devant l'étendue de la mer, et penser que la joie éternelle doit provenir de l'exaltation de ma grandeur? Non, 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 mon bien-aimé Père, car l'amour consiste en ce que tu as payé le prix. Oui, tu as payé au Jésus-Christ le prix le plus élevé qui soit pour devenir ma gloire et ma fierté. La rançon que tu as versée au Jésus en vue de faire de toi-même le trésor de ma vie. Oui, Père, tu as envoyé ton Fils, le centre éblouissant de ta splendeur et de ton amour. Tu l'as livré aux moqueries, à la trahison, aux épines, aux fouets, aux bâtons, aux poings, aux clous et à la honte ainsi qu'à la mort. Dans quel but ? Pour qu'il absorbe ta colère, pour qu'il satisfasse ta justice. Éloigne donc mes péchés. Les jette, tu les as jetés au plus profond de la mer, et ainsi de me permettre de regagner ta demeure et de contempler la galaxie. C'est donc en cela que ton amour consiste, ô Dieu, et non pas à célébrer uniquement ma petite valeur. Il consiste donc à prendre les dispositions nécessaires pour m'éveiller à la joie de révéler ta grandeur l'éternité durant. Comment Jésus-Christ ne serait-il donc pas ma seule gloire? En effet, il n'est pas uniquement celui qui nous a obtenu l'accès à ta personne, ô Dieu, mais il est lui-même ton parfait reflet. Il est le centre éblouissant de ta splendeur. Qu'ai-je donc que je n'ai pas reçu de lui? Quel don de l'existence? Quel souffle de vie? Quelle promesse n'a pas reçu sa confirmation en lui? De quelle chose agréable ou désagréable que tu rendras bientôt plaisante, puis-je bénéficier sans qu'elle n'ait été acquise par son sang précieux, je ne mérite rien à part l'enfer. Et cependant, je possède tout en Jésus-Christ, uniquement grâce à son sacrifice. Ô Dieu mon Père, ne permets jamais que je tire ma fierté d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ, mon bien-aimé Sauveur et Seigneur. Pour ceux d'entre nous qui chérissent Jésus-Christ et savent que ta bonté vaut mieux que la vie, la question se pose. Devrions-nous amasser, à la manière du monde, tous nos trésors sur cette terre? Oui, ne nous lancerais-tu pas, toi, insensé? Sache que cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et alors, oui alors, à qui profitera ce que tu as amassé? Ne permets pas, ô Seigneur, tandis que le monde croule sous de réels besoins, que nous prenions nos aises en prétextant « Mon âme, tu as suffisamment de provisions pour bien des années à venir. Repose-toi maintenant, mange, bois et réjouis-toi. » Une telle ingratitude peut s'attendre à un terrible renversement de situation. Oui, malheur à vous, les riches, car vous avez votre rétribution. Nous tremblons aux paroles que tu as prononcées à l'égard du riche insensible aux besoins. Dieu a dit, « Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare, il a connu uniquement les maux pendant la sienne. Eh bien maintenant, ici, il est consolé. Mais toi, tu souffres pour l'éternité. Oui, mon Dieu, amasser de telles richesses conduit à une vie vraiment gâchée. Aussi implorons-nous ta protection, ô Seigneur. Donne-nous de prêter attention à un appel nouveau. Tu dis, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Oui, là où les mites et la rouille ne peuvent rien détruire. Amasser des trésors qui ne peuvent être altérés. Mais de quel trésor s'agit-il, Seigneur? Nous te voyons sourire maintenant, et tu nous dis, c'est moi, oui c'est moi, qui suis votre trésor, qui suis votre grande récompense. Je suis vraiment votre nourriture, votre eau, votre parure de fête et votre gain éternel. Je suis votre vie, je suis votre joie qui peut pleinement vous satisfaire. Oui, Seigneur, tu es tout suffisant et je le reconnais. Mais nous voulons savoir, de quelle façon pouvons-nous amasser ce trésor? N'est-il pas là, acquis, une fois pour toutes, par ta grâce et par le sang de Jésus-Christ? Comment pouvons-nous utiliser cette vie, cette brève et unique existence que nous consumons en ce moment même et de manière à nous constituer un trésor au ciel. Ta réponse, c'est que nous pouvons commencer à chérir Jésus-Christ dans cette vie ici même et à prendre des dispositions en vue de nous réjouir en lui. Oui, ceux qui grandissent dans l'amour pour Jésus-Christ, ils auront un poids éternel de gloire à savourer, et cela au-delà de toute mesure. Et en quoi? En quoi consiste l'amour pour Jésus-Christ? À apprécier tout ce que tu as pour nous en Dieu notre Père, à estimer ses perfections supérieures à tous les trésors du monde, à estimer la relation que nous avons avec lui supérieure à celle que nous avons avec nos amis, à croire fermement toutes ses promesses stipulant qu'il y a plus de plaisir en la présence de Dieu que dans toutes les promesses mensongères du péché, à nous réjouir, oui, dans la délectation présente de sa gloire, ainsi que dans l'espoir d'une plénitude à venir, oui, lorsque nous le verrons face à face bientôt, à expérimenter une paix sereine sur le chemin qu'il nous réserve avec son lot de difficultés, à nous satisfaire du fait que rien ne nous arrive en vain. Une sorte de joie paisible découle donc du fait que Jésus nous a sauvés et nous a montré comment aimer. Sa vie, comme tu l'as dit, a constitué à la fois un objectif et un chemin. Jésus est mort pour nous et il nous appelle à présent à mourir avec lui. Il s'est chargé de notre pauvreté afin qu'en lui nous acceptions aux richesses célestes, que nous puissions accéder à tout ce qu'il a prévu pour nous. Il nous appelle aujourd'hui même à utiliser nos richesses pour les pauvres. Jésus n'a pas regardé son égalité avec toi, Dieu le Père, comme étant un butin à préserver, mais il s'est humilié lui-même et a traversé le gouffre infini qui sépare le ciel de la terre afin que nous puissions comprendre ce que est une mission pionnière et de marcher sur ses traces dans cette suprême entreprise. N'est-ce pas ainsi que nous pouvons amasser des trésors dans ta demeure? Une sorte de joie paisible, dis-je, à cause de toutes les difficultés. Je ne peux pas m'élever au-dessus du grand apôtre Paul, qui a qualifié sa vie de mort quotidienne, en recourant au paradoxe suivant. Nous sommes comme attristés, et pourtant, nous sommes toujours joyeux. Nous sommes comme pauvres, et pourtant, nous en enrichissons beaucoup. Nous sommes comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Père, accorde à ton Église de t'aimer plus que l'or, de mettre un terme à sa liaison adultère avec le confort et la sécurité. Donne-nous de rechercher d'abord ton royaume et de laisser le reste s'ajouter conformément à ta volonté. Donne-nous de chercher à nous rendre utiles au lieu de rechercher la tranquillité. Fais que la sécurité dont nous jouissons en Jésus-Christ puisse nous libérer pour risquer notre habitat, notre santé et notre argent ici-bas. Oui, aide-nous à comprendre que si nous cherchons à préserver nos richesses au lieu de montrer qu'elles ne sont pas notre Dieu, alors notre vie, elle sera gâchée, quelle que soit notre réussite apparente ici-bas. À présent, ô cher Seigneur, j'appréhende de prier pour que tous mes auditeurs et toutes mes auditrices puissent expérimenter ce que je ressens tout juste de moi-même. Cependant, j'ai goûté à ce qui pourrait être notre vie si nous marchions sans crainte et en souriant le long du précipice de la mort, avec la certitude que si nous y tombons ou y sommes poussés, cela sera un gain. Oh, quel abandon, quelle immense liberté, quelle inébranlable décision d'aimer serait les nôtres si nous vivions ainsi. Quelle disposition à souffrir pour la gloire de Jésus-Christ. Quel empressement de montrer aux pauvres que nous dépensons et nous dépensons nous-mêmes volontiers afin de contribuer à leur bonheur éternel en Dieu. Quelle humilité, quelle douceur et quelle libération du besoin d'être adulé et rétribué. En effet, en Jésus-Christ, nous possédons absolument tout, le monde, la vie, la mort, le présent et l'avenir. Tout cela nous appartient et nous appartenons à Jésus-Christ sans rien mériter. Ainsi donc, cher Seigneur, j'ose te demander que toutes les paroles de ces CD, si elles correspondent vraiment à ta pensée, retentissent avec une joie capable de surmonter toute crainte en Jésus-Christ. Que tout cœur chancelant se souvienne de la promesse que tu as faite, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, et proclame avec une confiance dépourvue de crainte face à la mort, si l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Donc, que peuvent me faire les hommes? Seigneur, permets qu'aucun de ceux qui écoutent ces paroles ne soit un jour obligé de confesser. J'ai hélas gâché ma vie, mais par la puissance de ton Saint-Esprit et l'impact de ta sainte parole, accorde-nous à nous qui appelons Jésus-Christ notre Seigneur, de l'estimer supérieur à notre propre vie et d'être convaincus au plus profond de nous-mêmes qu'il est notre vie et que la mort est un gain que nous nous employons à révéler sa valeur à tous et que l'estime que nous lui portons contribue à ce que le monde entier le loue, qu'il soit magnifié dans notre vie comme dans notre mort, que chaque quartier et que chaque nation voit combien la joie éprouvée en Jésus-Christ libère son peuple du pouvoir de l'avidité et de la crainte. Que l'amour soit ainsi déversé par tes saints, oui Seigneur, et que même si nous devons le payer de notre vie, les autres puissent trouver en toi leur bonheur. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Prends ta place d'honneur, ô Jésus-Christ, en tant que trésor entièrement satisfaisant du monde. C'est avec des mains tremblantes et dans l'entière dépendance de ta grâce que devant le trône de Dieu, nous élevons notre voix et nous prononçons ce vœu solennel, aussi vrai que Dieu vit et qu'il est tout ce dont j'ai besoin, je ne gâcherai pas ma vie, jamais. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous a rachetés. Amen. Et chers amis, j'aimerais maintenant vous transmettre quelque chose que le Seigneur m'a donné pour vous encourager, mais aussi pour votre édification personnelle. Écoutez bien. Chers amis, il ne faut point s'embarrasser dans les choses extérieures. La Sainte Bible dit, « Mon fils, il faut que tu te tiens dans l'ignorance de beaucoup de choses, que tu sois comme mort au monde et que le monde soit mort pour toi. Il faut aussi fermer l'oreille à bien des discours et pensez plutôt à te conserver en paix. Il vaut mieux détourner les yeux de ce qui déplaît et laisser chacun dans son sentiment que s'arrêter à contester. Si tu prétends et si tu prends soin d'avoir Dieu pour toi et que son jugement te sois toujours présent, alors tu supporteras sans peine d'être vaincu. Hélas, Seigneur, où en sommes-nous venus? On pleure une perte temporelle, on court, on se fatigue pour le moindre gain, et l'on oublie les pertes de l'âme, où l'on ne s'en souvient que à peine et bien tard, parfois même trop tard. On est attentif à ce qui ne sert que peu ou point du tout et l'on passe avec négligence sur ce qui est souverainement nécessaire parce que l'homme se répand tout entier au dehors, et que s'il ne rentre promptement en lui-même, il demeure avec joie, malheureusement, enseveli dans les choses extérieures. David, il priait, et il a dit, « Secours-moi, ô Seigneur, dans la tribulation, car le salut ne vient pas de l'homme. Combien de fois ai-je en vain cherché la fidélité où je croyais la trouver? Combien de fois l'ai-je trouvée là où je l'attendais le moins? Vanité des vanités, d'espérer dans les hommes, mais vous êtes mon Dieu, le salut des justes. Sois béni, Seigneur, en tout ce qui nous arrive. Nous sommes faibles et changeants. Un rien nous séduit et nous ébranle. Quel est l'homme, si vigilant et si réservé, qu'il ne tombe jamais dans aucune surprise ni dans aucune perplexité? Mais celui, mon Dieu, qui se confie en toi et qui te cherche dans la simplicité de son cœur, ne chancelle pas si aisément. Et s'il éprouve quelques afflictions, s'il est engagé en quelques embarras, tu l'en tires bientôt ou tu le consoles, car tu n'abandonnes pas pour toujours celui qui espère en toi. Quoi de plus rare qu'un ami fidèle qui ne s'éloigne point quand l'infortune accable son ami? Seigneur, tu es seul constamment fidèle, et nul ami n'est comparable à toi. Ô que de sagesse dans ce que disait cette sainte âme, que mon cœur est affermi et fonde uniquement en Jésus-Christ, en qui j'ai mis toute mon espérance à venir. Amen. Et maintenant, prions ensemble. Dans Ézéchiel, au chapitre 36, versets 26 et 27, Dieu dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suivez mes ordonnances et que vous pratiquez mes lois. » Seigneur, nous venons à toi pour goûter une fois de plus la miséricordieuse assurance de ta promesse accordée lors de la Pentecôte à ton peuple. Seigneur, nous voici venus des ténèbres du monde, de la bataille humaine, lourde de toutes les miséricordes, de toutes les laideurs de la vie de tous les jours. Donne-nous de saisir pleinement le sens véritable des dons de Pentecôte et fais de nous des hommes nouveaux, capables de supporter l'éclat de ton trône et de paraître devant ta face comme des enfants joyeux devant leur céleste Père. Oui, accorde-nous l'esprit de la première communauté et rends-nous dignes de l'accueillir. Amen. Amen. Et chers amis, rappelez-vous, Dieu aime tous ceux qui ont eu le courage de s'humilier et même certains d'entre eux de se mettre à genoux comme autrefois et de dire « Jésus, accepte-moi tel que je suis. Je reconnais que j'étais perdu pour l'éternité. Je reconnais que j'étais un pécheur qui méritait la mort. Eh bien oui, maintenant, je te demande de m'accepter comme ton enfant, de m'accepter pour l'éternité, d'effacer tous mes péchés et comme tu le dis si bien, de les jeter au fond de la mer, dans l'oubli total, et tu ne dis pas « Je te pardonne, mais je n'oublierai jamais ce que tu as fait. » Oh, merci que tu ne dis pas cela. Merci que, au contraire, tu as tout oublié, tout effacé, pour me rendre tout neuf, tout nouveau, ton enfant pour l'éternité. Et maintenant, étant donné que tu m'aimes vraiment, il est bien entendu de mon devoir, mes chers amis, de vous aimer de tout mon cœur, et là où vous êtes maintenant, au loin ou au près, je vous enlace et je vous embrasse tous et je vous dis oui, je vous aime, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais vous mettre maintenant un ou deux chants d'un très lointain passé. Figurez-vous, j'avais enregistré cela avec un appareil à bande qui s'appelait Revox. Parfois, j'avais même un appareil plus performant qui était de Kudelski, le Nagra. Eh bien, ça a tout de même perdu beaucoup de sa netteté avec les années. J'étais jeune en ce temps-là, comme certains que je connais, qui habitent le Valais, une autre à Aigle, et un cher pasteur à la retraite qui travaille d'une façon diligente, on peut bien le dire, même en allant en Afrique, à risquer sa santé pour que des âmes puissent être sauvées. Eh bien, nous aussi, nous devons essayer au moins de faire notre devoir. Eh bien, écoutez maintenant ces chants d'un très lointain passé. C'était, dans ce cas-ci, une assemblée pentecôtiste, comme on les appelle. Écoutez bien. Thank you.
Aujourd'hui, notre corps, qui est autrefois l'habitation de démons, de cet esprit impur, aujourd'hui est devenu le temple du Saint-Esprit.
Amen.
Alléluia. Et ça fait 22 ans que ça dure. Et je suis pleinement comblé, satisfait, riche et heureux depuis que le Seigneur habite mon cœur. Alléluia. Alors c'est pour cela que je le loue, que je le chante. Alléluia. Ton peuple te loue, Seigneur.
Amen.
Alléluia. Tout la vérité, we are going to see the king.
Amen.
Amen. Alléluia. Parce qu'il est bon de louer le Seigneur, mais il est malsain de critiquer son frère ou sa soeur, ou de critiquer le serviteur de Dieu. Mais il est bon de louer le Seigneur.
Amen.
Si notre bouche a été crucifiée, si elle est descendue dans le tombeau, si elle est ressuscitée, notre bouche avec le Seigneur, alors nous sommes appelés comme ambassadeurs, comme une bonne odeur pour lui, à chanter, à célébrer son nom, à adorer le Seigneur. Moi, j'aime les chrétiens qui louent le Seigneur.
Alléluia.
Parce que, pour ma part, je le dis souvent, j'ai demandé une faveur au Seigneur. Quand je vais rentrer dans son royaume, j'ai demandé une place à côté de David.
Amen.
Ah oui, ça c'est une bonne place. Parce que David, il connaissait le secret de la victoire. C'était un homme qui aimait louer le Seigneur. Il dit même si une armée se campait autour de moi, ce serait malgré cela plein de confiance.
Amen.
Une armée. Des fois, nous, quand on a quelqu'un qui nous critique, on est déjà désemparé. Mais lui, c'est une armée. Et malgré cela, il était plein de confiance.
Amen.
Eh bien, moi, je veux louer le Seigneur.
Amen.
Comme David. Je voudrais savoir jouer l'harpe comme lui. Hein. Mais j'aime David parce qu'il connaissait la puissance de la louange. Et frères et sœurs, c'est vrai que votre présence sera inutile. Si vous ne rentrez pas dans cette dimension nouvelle de la louange,
Alléluia.
Il faut rentrer avec nous dans la louange.
Alléluia.
Savez-vous que la louange libère ? La louange, j'ai jamais vu quelqu'un qui loue le Seigneur qui est triste. C'est vrai, hein ? Alléluia. Vous voyez ? Il loue le Seigneur, voilà, un adorateur, qu'il adore en esprit et en vérité. Alors nous allons rechanter. Ton peuple te loue, Seigneur.
Oh
oui, ton peuple.
Alléluia.
dans la joie, soyez détendus. C'est une fête de famille, la Pentecôte.
Amen.
Hein? C'est une grande famille, c'est la famille de Dieu. Alléluia. J'aimerais bien regarder vos yeux quand vous allez le voir. Vos yeux vont briller de contemplation. Ah, vous serez remplis, oh, contemplez la magnificence de notre Seigneur, du grand roi, celui qui nous a tant aimés, celui qui pendant des années a été avec nous, qui nous a relevés, qui nous a consolés. Oh là là, je crois qu'on va tous courir se prendre à son cou. Comme disait un brave frère martiniquais, quand il m'embrassait, il me disait tout d'un bien, je vais te faire un lavage et tout. Alors il m'embrassait. Oh là là là, il était tellement... Mais je ne sais pas comment je vais embrasser le Seigneur, mais je vais l'embrasser, c'est sûr. Parce que je l'aime. Parce qu'il est toute ma joie. Il est mon soutien. Et si je le sers, je ne sers pas les hommes, je sers Jésus. Je ne sers ni aucune dénomination, ni aucune religion, mais je sers le Seigneur. Je sers le Seigneur parce que lui, il est la tête. Et son Saint-Esprit est la tour de contrôle. Et c'est lui qui me contrôle. Alléluia. Et je me laisse conduire par le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour ses conventions. Parce que la plupart parmi nous, nous sommes de différentes dénominations. Mais il n'y a pas d'étiquette au milieu de nous. Il n'y a qu'un seul berger.
Alléluia.
Et un seul troupeau.
Amen.
Alléluia. C'est vrai. Alléluia. Ça, c'est l'Esprit de Pentecôte. Ça, c'est l'esprit de Pentecôte. C'est cet esprit que le Seigneur a répandu dans la chambre haute. Un esprit d'unité, d'amour, de force et de sagesse. Alléluia. Alors, ton peuple.
Amen.
Alléluia.
Alléluia.
Oh, la chambre dans la main. Amen. Alléluia.
Alléluia, alléluia, nous verrons le roi des rois. Le salut, la gloire sont à notre Dieu. Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, frères et sœurs, et voyons dans l'allégresse. Heureux ceux qui ont l'ont inscrit dans le livre de vie. Alléluia.
Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia.